VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 juillet 2015 en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson à la une ce matin.
Au Nigeria, près de 50 personnes ont été tuées dans deux explosions hier dans un marché de la ville de Gombe.
Au Mali, plusieurs djihadistes ont été tués par l'armée dans le sud du pays.
Le chef de l'État burkinabé, Michel Kafando, a décidé jeudi de maintenir son premier ministre Isaac Zida contre la volonté d'une partie de l'armée.
Convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections.
C'est aujourd'hui la fête musulmane de l'Id el-Fitr, célébrée par beaucoup de fidèles à travers le monde pour marquer la fin du Ramadan.
Et ici aux États-Unis, 4 Marines américains ont été tués et 2 autres militaires blessés hier dans des fusillades dans 2 installations militaires dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee.
Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports. Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, près de 50 personnes ont été tuées dans 2 explosions hier dans un marché de la ville de Gombe, dans le nord-est du pays. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, visait un marché bondé où des clients faisaient des achats de dernière minute à la veille de la fête de Ramadan.
Et c'est justement aujourd'hui que les musulmans célèbrent le Ramadan dans plusieurs pays. L'Id el-Fitr marque la fin du mois de jeûne. Barack Obama a souhaité jeudi aux musulmans un joyeux Id, saluant l'initiative de la ville de New York de marquer cette fête par un jour férié dans ses écoles.
Le chef de l'État burkinabé, Michel Kafando, a décidé jeudi de maintenir son premier ministre Isaac Zida. Une partie de l'armée réclamait la démission de ce dernier. Dans un bref discours à la Nation, le président intérimaire a dit qu'il n'était pas acceptable que l'armée continue de perturber la transition. Il a annoncé un remaniement ministériel. On écoute Michel Kafando.
Premièrement, j'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. Deuxièmement, le ministère de la Défense, jusque-là détenu par le chef du gouvernement, sera désormais confié au chef de l'État, au président du Faso. Cette mutation devrait pouvoir régler les questions de dysfonctionnement et surtout de frustration au niveau de l'armée. Troisièmement, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité sera scindé en 2 départements ministériels distincts, celui de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la sécurité.
Toujours au Burkina Faso, les députés du Parlement intérimaire ont voté jeudi à Ouagadougou la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution.
Au Mali, plusieurs djihadistes ont été tués par l'armée dans le sud du pays, limitrophe de la Côte d'Ivoire. Leur principal camp a été détruit dans une forêt jouxtant la frontière ivoirienne. Jean-Roger Bion.
Selon l'armée malienne, des armes, des munitions, des motos ainsi que des documents stratégiques ont été saisis dans le camp. Depuis la semaine dernière, l'armée mène des opérations contre les djihadistes le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Interrogé par l'AFP sur les ennemis rencontrés sur le terrain, des sources dans l'armée ont cité le groupe djihadiste en sardine, les adeptes du prédicateur islamiste Amadou Koufa et la secte dite des pieds nus, présente dans la région qui milite pour l'application de la charia contre l'enseignement occidental et les campagnes de vaccination. 2 militaires maliens ont été blessés au cours des opérations. Par ailleurs, l'interrogatoire d'une 20aine de personnes arrêtées le 13 juillet au poste frontière malien des Égoua à bord d'un car en provenance de Côte d'Ivoire et soupçonné d'appartenir à la mouvance djihadiste se poursuivait. Tous sont des membres de la Dawa, une secte islamiste d'obédience pakistanaise, également connue sous le nom de Tablik, ont révélé des sources proches du dossier.
Faut-il voir un durcissement de la répression contre la liberté de la presse ? Au Sénégal, 3 journalistes de Quotidien attendaient hier d'être présentés à un procureur à Dakar pour violation du secret dans 2 affaires distinctes. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le premier quotidien d'information sénégalais, l'Observateur, appartenant au groupe de presse du chanteur Youssou N'Dour, est sous le feu des autorités judiciaires. pour un papier concernant l'envoi de 2100 soldats en Arabie Saoudite. Alioun Badarafal, le directeur de publication du journal, ainsi que Mamadou Sek, le journaliste ayant rédigé l'article, ont été interpellés dans leur rédaction et accusés de violation du secret défense. Placés en garde à vue mardi, les deux journalistes ont été présentés au parquet. Mohamed Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien, était également jeudi après-midi dans l'attente d'une audition par un juge, a affirmé à l'AFP Ali Fall, membre de la rédaction et secrétaire général de la section syndicale du journal. Selon M. Fall, il est reproché à M. Gueye une violation du secret de l'instruction pour avoir en juin publié in extenso des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie sur l'affaire dite Tion Sek. Monsieur Sek, grand nom de la musique sénégalaise, a été arrêté fin mai et incarcéré début juin pour tentative d'escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre d'une investigation sur des faux billets.
Au Burundi, les délégués du gouvernement, du parti présidentiel, le CNDD-FDD, de l'opposition et de la société civile, ainsi que deux anciens chefs d'État, ont repris en fin d'après-midi de jeudi les discussions entamées mardi et mercredi avec le président ougandais Yoweri Museveni. Ce dialogue se déroule désormais sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, arrivé jeudi à la mi-journée à Bujumbura. Selon l'AFP, l'opposition burundaise compte obtenir l'annulation des scrutins du 29 juin, le report de la présidentielle.
Remous au Rwanda autour des conditions de détention de Victoire Ingabire. L'opposante condamnée à 15 ans de prison n'aurait pas eu accès à son avocat, ce que Kigali dément. Nicolas Pineau.
C'est le parti de Mme Ingabire qui a dénoncé un durcissement très sévère des conditions de détention de la présidente des Forces démocratiques unifiées à la prison centrale de Kigali. Les FDU affirment que Mme Ingabire n'a pas pu voir son avocat et que toutes les ouvertures laissant entrer de la lumière dans sa cellule ont été bouchées. L'opposante rwandaise se serait aussi vue confisquer ses livres et interdire de parler à ses visiteurs. Faux, répond le commissaire général des services correctionnels rwandais. Paul Rwarakabidje a démenti ces informations. Cette lettre ouverte de ce parti qui n'est pas acceptée actuellement dans notre pays, je prends ça pour un tract politique, a-t-il déclaré à l'agence France-Presse. À l'étranger, lors du génocide de 1994, Victoire Ingabire était revenue dans son pays en 2010 pour se présenter à la présidence contre le chef de l'État sortant, Paul Kagame. Elle avait été arrêtée peu de temps après son arrivée, après avoir demandé que les auteurs de crimes contre les Hutus soient aussi jugés. Victoire Ingabire avait été condamnée en décembre 2013 pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994 contre les Tutsis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Grèce pourra rouvrir ses banques dès lundi. La Banque centrale européenne a relevé de 978 millions de dollars le plafond du fonds d'urgence mis à la disposition des banques grecques. Elles avaient été fermées fin juin pour éviter une ruée sur les dépôts bancaires.
Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait adopter la semaine prochaine à Vienne une résolution ratifiant l'accord conclu entre l'Iran et les 6 puissances mondiales. Le vote prévu pour lundi matin va démarrer le processus de levée progressive des sanctions internationales imposées à Téhéran. Téhéran qui devra en échange abandonner son programme nucléaire.
Un an, jour pour jour, ce 17 juillet, que le Boeing de Malaysia Airlines a été abattu au-dessus de l'Ukraine, aux Pays-Bas, d'où étaient originaires la plupart des 298 personnes qui ont péri. Lorsque l'appareil s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, les drapeaux seront en berne. La Grande-Bretagne, à la suite de plusieurs autres pays, demande la création d'un tribunal spécial pour juger les responsables. La Malaisie et les Pays-Bas, premiers concernés, ont lancé l'idée d'un tribunal qui serait soutenu par l'ONU. Mais la Russie, qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité, y est opposée.
Quatre marines américains ont été tués et deux autres blessés hier dans des fusillades dans deux installations militaires dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee, dans le sud du pays. Le tireur Mohamed Youssef Abdulaziz, âgé de 24 ans, a été tué. Les autorités expliquent qu'il a ouvert le feu contre un centre de recrutement militaire alors qu'il était au volant.
Et toujours ici aux États-Unis, James Holmes, reconnu coupable du meurtre de 12 personnes au cours d'une attaque qui a fait également des dizaines de blessés dans un cinéma dans le Colorado, pourrait être condamné à la peine de mort la semaine prochaine. Le jury a trouvé l'homme de 27 ans coupable du massacre dans cette salle de cinéma en 2012. L'avocat de Holmes compte mettre en évidence sa santé mentale en vue de lui épargner la peine capitale.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Claire Morin-Jubourg.
La corruption et les mauvaises pratiques au port de Douala coûteraient entre 200 et 300 milliards de francs CFA par an à l'État camerounais. Selon un rapport d'audit en cours de finalisation au ministère des Finances, cité par l'agence APA, la place portuaire de Douala, principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun, a des recettes de douane largement inférieures à ses activités. L'audit pointe des dysfonctionnements généralement prémédités et la prolifération des fausses exonérations. Fin de la troisième conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba. Les pays riches et les nations en développement se sont entendus pour trouver les 2 500 milliards de dollars nécessaires au financement du développement d'ici à 2030. Cette gigantesque somme va être nécessaire pour atteindre les 17 ODD, les objectifs de développement durable que l'ONU est en train de fixer pour 2015-2030. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. C'est ce qu'a déclaré hier Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de l'économie, dans une interview au quotidien La Croix. Aux commandes de la Fondation Énergie pour l'Afrique depuis 7 mois, il a pour ambition de bâtir un nouveau plan Marshall pour électrifier tout le continent d'ici 10 ans.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Nicolas Pineau.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football et le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions en Europe.
Monaco, le Shakhtar Donetsk ou encore l'Ajax d'Amsterdam entrent en lice au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ces poids lourds espèrent éviter le club turc de Fenerbahçe et ses nouvelles recrues tonitruantes comme Van Persie ou Nani. Le tirage au sort est prévu ce vendredi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.
Du nouveau dans le scandale de corruption de la FIFA.
L'un des 7 responsables de la FIFA, arrêté en Suisse le 27 mai dernier, à la demande des autorités américaines, a été extradé mercredi vers les États-Unis. Selon la justice helvétique, l'homme a été pris en charge à Zurich par 3 policiers américains qui l'ont escorté jusqu'à New York. Sur demande de la personne concernée, Berne ne peut toujours pas confirmer officiellement l'identité de cette personne.
Et en rubrique transfert,
le vétéran brésilien Robinho va retrouver son compatriote Paulinho et Luis Felipe Scolari, son ex-sélectionneur, dans le club chinois de Guangzhou à Canton. Quant à Guirendao, 31 ans, il s'est engagé pour 2 ans en faveur du RC Lens en France. La saison dernière, le milieu de terrain sénégalais évoluait au FC Metz.
En cyclisme, Tour de France, 12e étape.
L'Espagnol Joaquim Rodriguez de l'équipe Katusha a remporté sous l'orage la 12e étape. C'était la 3e et dernière dans le massif des Pyrénées. L'arrivée s'est jouée sur le plateau de Beille. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky a été attaqué par ses adversaires mais n'a rien cédé. Il a conservé son maillot jaune à la sortie des Pyrénées. Et à noter que le coureur américain Lance Armstrong, banni du cyclisme et déchu de ses 7 maillots jaunes après ses aveux de dopage, eh bien il a débuté son périple de France pour une association caritative.
Troisième étape du Tour du Bénin, c'est le Français Jérémy Letu qui a surclassé le peloton pour remporter cette étape de Parakou à Savel, longue de 165 km. Deuxième à l'arrivée, le Burkinabé Mathias Sorgho qui conserve le maillot jaune. Son compatriote Seydou Bamogo a terminé troisième. Les cyclistes béninois, congolais, togolais, nigériens, ivoiriens et sénégalais restent en mauvaise position sur ce tour. Aujourd'hui, on aura droit à la 4e étape, 80 km entre Dassa et Bo.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Bagassi Koura ici à Washington. Place maintenant au dossier du jour. Au Niger, la situation des réfugiés et des déplacés devient critique à l'approche de la soudure et de la saison du paludisme dans la région déjà fragile de Difa. Les attaques de Boko Haram continuent de faire augmenter le nombre de réfugiés. Claire Morin-Jibour a joint le chef de la mission de Médecins sans frontières au Niger, Elmouzer Ag Djidou.
Il s'agit des attaques, surtout des attaques perpétrées de part et d'autre de la frontière par la terre, souvent des attaques ou aussi par rapport à l'installation des mesures de sécurité que l'État met en place pour sécuriser les zones. Donc tout ça cause le déplacement des populations. Mais le plus fréquent, c'est surtout à la suite des attaques ces derniers moments. Des villages qui sont attaqués, brûlés, où il y a des morts, où il y a des règlements de comptes qui se font. C'est ce qui fait que les gens se déplacent à tout moment.
Quelles sont les principales difficultés pour ces réfugiés?
Surtout de l'eau, la nourriture, la protection, les abris. En général, et puis surtout les ouvrages sanitaires. Donc il y a toute cette gamme de besoins qui est là déjà pour les populations auxquelles ils se greffent déjà. Les populations hautes déjà sont en insuffisance, donc quand ils viennent s'ajouter, c'est aussi un problème. Maintenant, les grandes inquiétudes se posent surtout par rapport à l'avenir de la saison des pluies, où on sait que ça vient avec les moustiques et donc avec les conséquences comme le paludisme. Et en même temps, avec le choléra, les possibles foyers de choléra, quand l'assainissement n'est pas là, on a vraiment des inquiétudes que le choléra puisse faire des ravages. Dans tout ça, il y a aussi les contraintes sécuritaires, les mesures qui font que les humanitaires n'ont pas facilement accès et ne sont pas très actifs pour apporter la réponse qu'il faut à tous les niveaux. Donc, le gouvernement fait ce qu'il fait, les organisations essayent aussi, mais c'est trop loin de couvrir les besoins et ce qui inquiète pour les jours à venir, parce que les besoins ne font qu'augmenter, les causes aussi ne font qu'augmenter tous les jours.
À votre avis, qu'est-ce qui vous permettrait de mieux faire face à la situation aujourd'hui?
Actuellement, nous, à notre niveau, on a Médecins sans frontières, on a essayé d'augmenter un peu sur notre intervention, sur le plan couverture géographique, aussi bien que sur le plan activité, en couvrant plus des centres de santé, en soins de santé primaire, en ajoutant aussi quelques activités de prévention du paludisme. Mais c'est loin de couvrir parce que ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que quand le paludisme va à son pic, ce serait très difficile de couvrir une population très éparpillée dans des villages un peu souvent difficiles d'accès.
Elmouzer Ag Djidou, chef de mission de Médecins sans frontières au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Après le Tchad, le Cameroun interdit à son tour le port du voile intégral, burqa ou niqab, dans les zones frontalières avec le Nigeria où les kamikazes présumés du groupe terroriste Boko Haram opèrent. Une décision prise après le double attentat suicide mené cette semaine dans la ville de Fotokol. Le reportage du correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, récité ici par Michel Joseph.
Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midiyawa Bakari, affirme que ces attentats suicides, les premiers enregistrés dans son pays, étaient le fait de deux femmes en voile intégrale. La mesure d'interdiction d'hier porte non seulement sur le port de la burqa et du niqab, mais aussi sur toute activité susceptible de compromettre la paix et la sécurité, a-t-il souligné. Environ 20% des 22 millions d'habitants du Cameroun sont musulmans, 40% chrétiens et le reste adeptes de diverses croyances traditionnelles. Les sunnites constituent 75% des musulmans du pays et les chiites, qui insistent sur le port du voile, environ 25%. Madame Mayrama Aboubakar, une voyageuse se rendant de l'extrême nord du Cameroun, où l'interdiction est en vigueur vers Yaoundé, la capitale, est vêtue d'une burqa. Selon elle, porter ce vêtement est une obligation religieuse.
En islam, il est obligatoire pour toute femme de porter le voile, parce que Allah a décrété dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Ahzab, il a ordonné au prophète de dire à ses femmes de rabattre le voile. voile sur leur poitrine afin de préserver leur dignité. Le voile, c'est aussi quelque chose de très important parce que ça préserve aussi la femme et ça valorise aussi la culture musulmane.
Pour Madame Aboubakar, le port du voile n'est pas négociable.
Non, je n'ai pas peur si on m'arrête parce que ça fait partie d'une obligation pour moi de rabattre le voile sur moi. Donc pour préserver aussi ma dignité, il n'est pas permis d'arrêter une personne qui est voilée en islam.
Mouhamman Sani, de la mosquée centrale de Marwa, dans l'extrême nord camerounais, déplore qu'à peine annoncée, la nouvelle mesure donne déjà lieu à une répression des musulmans, alors qu'il n'a pas été établi que les kamikazes étaient des musulmans.
Ce n'est pas seulement les musulmans qui portent ces voiles, puisque c'est un aspect particulier pour les musulmans. Pourquoi maintenant se confond, se morfond dans la religion musulmane pour faire du mal aux autres? Or, c'est maintenant le cas de voir que le port de voile n'est pas seulement un type pour les musulmans. Il y a aussi des non-musulmans qui peuvent le faire pour se masquer et aller attaquer les autres. Et ça revient tout simplement au nom des musulmans en disant que ce sont les musulmans qui font les mêmes actes. Il faut mettre l'accent sur tout le monde parce que le port de voile, ça peut se faire avec un musulman comme avec un non-musulman.
Ntouba Ebodé, géopoliticien camerounais, estime lui que l'interdiction de la burqa intervient trop tard dans son pays.
Lorsque le Tchad décide d'interdire, le Cameroun est dans la même coalition que le Tchad. Si le Cameroun n'interdit pas, ça fait quand même quelque chose sur laquelle on peut s'interroger. Le prêtre ne cesse pas d'être prêtre parce qu'il n'a pas mis la soutane. Donc je crois que c'est des mesures transitoires pour permettre à ce que tout le monde puisse vaquer à ses occupations et pratiquer la religion de son choix de manière assez sécurisante.
Le mois dernier, le Tchad a également interdit le port du voile intégral après que des kamikazes l'ont utilisé pour se déguiser et mener des attentats suicides. Conséquence de l'interdiction du voile intégral et des rassemblements en grand nombre dans l'extrême nord du Cameroun, beaucoup de musulmans, trop effrayés, renoncent à mener leurs traditionnelles œuvres de charité. La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Accord à la conférence des Nations Unies à Addis Abeba en Éthiopie sur une structure financière mondiale pour atteindre les nouveaux objectifs de l'ONU pour le développement. Mais des organisations de la société civile disent que cet accord donc n'inclut pas des moyens d'empêcher l'évasion fiscale dont sont accusées les firmes internationales. Lionel Gaïma.
Le programme d'action d'Addis Abeba adopté à cette conférence de 4 jours en Éthiopie porte selon la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique sur une série de mesures audacieuses pour réformer les pratiques financières mondiales et générer des investissements pour faire face à un nombre de défis économiques, sociaux et environnementaux. Il offre ainsi un cadre financier pour les objectifs du développement durable qui vont prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement et qui doivent être adoptés en septembre à New York. Mais ce nouveau cadre n'inclut pas une instance autonome chargée d'asseoir la gouvernance mondiale en matière de fiscalité, ce que réclamaient les ONG. Pour Hu Hongbo, sous-secrétaire général de l'ONU pour l'économie et des affaires sociales, cet accord offrira une base solide pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Dans les circonstances actuelles, explique-t-il, c'est le meilleur document qu'on puisse obtenir, bien qu'il n'inclue pas l'autorité fiscale internationale en question.
I am aware there are quite a few reports about the discussions about the taxation issue. All the member states.
Je suis conscient des informations sur les discussions au sujet des questions fiscales. Tous les États membres sont tous bien conscients de l'importance des impôts et du système fiscal. Ils sont tous d'accord sur la nécessité de renforcer les efforts internationaux dans ce domaine. Je dois dire que ce n'est pas le bout de notre trajet. Les États membres ne vont pas s'arrêter là. Il s'agit d'un processus graduel. Les impôts ont occupé une bonne partie des discussions à Addis Abeba où il a été souligné qu'une autorité fiscale forte, à la différence de l'actuel comité consultatif de l'ONU sur la fiscalité, pourrait, dans les pays en développement, lever d'énormes sommes d'argent et mettre fin à l'évasion fiscale dont sont accusées les compagnies internationales. L'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays riches se sont opposés à la création d'une telle autorité dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Alvin Monsioma, directeur exécutif du réseau de la justice fiscale en Afrique, se félicite d'un certain nombre de ces éléments, mais, ajoute-t-il, les organisations de la société civile estiment que l'accord n'est pas aussi ambitieux qu'elles l'espéraient. Je crois que les pays en développement ont subi des pressions de la part de pays riches pour accepter ce document de compromis. Je crois que les gros intérêts ont prévalu. les intérêts des riches en particulier. L'accord d'Addis Abeba comprend une série d'actions et d'initiatives dont la création du Forum mondial pour les infrastructures afin d'identifier et combler les lacunes dans son domaine. Bien que l'ONU qualifie cet accord d'historique et de tournant dans la coopération internationale, certains de ces points sont très similaires à ceux qui avaient été adoptés il y a 15 ans. Par exemple, les pays présents se sont engagés à consacrer 0,7% de leur PNB à l'aide à l'étranger.
C'est aujourd'hui la fête musulmane de l'Id el-Fitr, célébrée par beaucoup de fidèles à travers le monde pour marquer la fin du Ramadan. Mais une partie des Sénégalais feront la fête aujourd'hui et d'autres demain. Pourquoi cette singularité bien sénégalaise quand il s'agit de la fête religieuse? Idriss Fall a joint l'imam Ismaïla Ndiaye de la mosquée du Point E à Dakar.
C'est une particularité assez étrange pour le Sénégal. Il y aura une partie du Sénégal qui va célébrer avec le monde musulman, plus de 16 pays à travers le monde musulman. Et si on compte les pays de l'Amérique, de l'Europe qui vont tous fêter l'Aïd. Mais comme vous le savez, le cas du Sénégal est un cas très particulier. C'est le pays des grands marabouts, c'est le pays des grands érudits de l'islam. Donc souvent, on veut être particulier par rapport à notre forme de pratiquer la religion. Mais il faut quand même reconnaître que les choses évoluent. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a cette conformité à la tradition islamique que nous avons, mais quand même, les gens commencent à penser qu'il faudrait plus s'ouvrir au monde. Ce que l'Égypte a réussi aujourd'hui, ce que les Émirats arabes unis, beaucoup de pays du monde ont réussi à unifier, en quelque sorte, la scrutation de la Lune. Aujourd'hui, ça peut être une réalité au Sénégal, qu'ils suivent le monde entier, parce qu'on ne peut pas concevoir que les pays de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de tous les pays du monde, à l'exception de quelques-uns, puissent jeûner un jour et que le Sénégal soit en déphasage, ou puissent rompre et que le Sénégal soit en déphasage. Donc je pense que c'est juste une question d'appréhension, nous appelons vers la tolérance intra-religieuse et que cette tolérance pourra nous permettre un dialogue qui demain pourrait aboutir à aligner le Sénégal dans le rang des pays du monde.
Et le gouvernement qui accorde des jours fériés n'a aucun pouvoir pour unifier ces journées de fête religieuse.
C'est un peu difficile, c'est un peu difficile pour un pays quand même dont la constitution garantit la liberté de culte et qui est un pays laïque, que le gouvernement puisse intervenir dans l'orientation ou la délimitation des activités religieuses. Et comme la fête a une connotation religieuse, le gouvernement préfère laisser un certain consensus se développer autour de la question. Mais cela n'empêche quand même qu'étant même un pays laïque, il peut, de manière inclusive, participer au débat et demander à ce que les Sénégalais se réunissent autour d'une table et discutent de manière objective sur cette question-là et voient ce que les autres pays ont réussi. Comme je l'ai dit tantôt, l'Égypte, le Maroc, beaucoup d'autres pays ont réussi, que le Sénégal puisse le réussir. C'est-à-dire discuter de manière, disons, très ouverte, laisser un peu cette sanctification qu'on se fait de nous-mêmes, pensant que nous avons un islam vraiment particulier, etc. C'est vrai que le Sénégal vit une entente interne quand même assez particulière, mais cela n'empêche quand même que pour ces questions-là qui relèvent du monde musulman, que tout le monde s'aligne à fêter un jour, que le Sénégal puisse suivre. Et je pense que dans l'avenir, l'État pourra intervenir à régler cela.
Voilà, c'était Ismaïla Ndiaye, imam de la mosquée du Point E à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
El incomparable, el tsunami. Esto es lo mejor de mí, para ti, my pretty girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagassi Koura ici à Washington. Si vous êtes un musulman, passez une excellente fête de l'Id el-Fitr.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.